Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les différentes opinions, c'est très bien, c'est pour ça que le débat s'anime. Je fais du financement immobilier. Quand je finance des fonds, quand un fonds achète une tour à la Défense, il y a un bail commercial en 3, 6, 9.
J'entends par commandement l'équité, l'amour pour ceux en particulier qui nous sont soumis. Je vais lancer la piste.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Ricardo Fatti, avec David Guzman.
Il y a des cours de philosophie, des cours d'immobilier.
C'est incroyable. Il y a Obama qui faisait une leçon magistrale comme ça, qui faisait tomber le micro avant de partir de scène. Et puis il y a Kevin Diaz qui, lui, froidement, tu peux lancer la pub.
Drop the mic.
Parfait.
Ouais, c'est le mic drop façon Kevin Diaz. Exactement.
Bon, Kevin Diaz off.
Lyon. Quel bouleur intersidéral.
Non, en plus, c'est pas vrai.
Mais je sais, mais c'est ton personnage, ça va, t'inquiète.
C'est un personnage.
Bon, Lyon encore une fois. Là, sur le terrain, plutôt financier, de stratégie sportive surtout. On apprend donc, ces dernières heures, que John Textor veut se désengager de l'actionnariat de Crystal Palace. Hein, vous le saviez, Crystal, hein, qui a terminé une bonne 10e place de Première Ligue d'ailleurs.
Superbe seconde partie de saison.
Exactement. Il détient 45% des parts du club qu'il veut vendre parce qu'il n'est pas en mesure de se voir confier un rôle plus actif dans la gestion du club. Mm-hmm. Il a des ambitions, il a des velléités en Première Ligue. John Textor, c'est un patron. Voilà, il n'est pas là pour partager. Il est là pour imposer et affirmer ses idées et sa stratégie. Donc, le média The Athletic assure que Textor a pour ambition de s'attaquer rapidement à un club de Première Ligue. Everton, propriété actuelle de l'homme d'affaires anglo-iranien Farhad Moshiri. Textor reconnaît que quelqu'un comme Everton est une superbe opportunité pour qui veut investir en Première Ligue, mais nie aujourd'hui tout intérêt concret de discussion pour Everton. Il dit « Everton représente le meilleur du football anglais, les luttes, la gloire, le besoin. Tout le monde devrait vouloir acheter Everton dès maintenant. Je pense que le problème avec Everton est qu'il ne sera pas disponible au moment où nous serons prêts. » Effectivement, le calendrier est compliqué, il faut vendre les parts de Crystal Palace. Évidemment, je rappelle la règle, tu ne peux pas détenir deux clubs d'un même championnat. Voilà où on en est, bien sûr, toi. David, tu voulais en parler ce soir également. Mm-hmm. Parce que si ça arrive, hein, et en tout cas, la motivation est claire, si ce n'est pas Everton, a priori, c'est Everton qui intéresse John Textor, ça peut avoir des conséquences sur l'avenir de l'OL, mm-hmm. comme les conséquences que le rachat de Manchester, en partie par Ineos, a sur l'avenir de l'OGC Nice, ses ambitions en tout cas.
Absolument, surtout que là, l'OL est chanceux dans sa multipropriété, c'est-à-dire qu'il est en haut de la chaîne alimentaire. Il se sert à Botafogo, il se sert à Molenbeek, il fait même passer des joueurs par Molenbeek. Mais oui, exactement. Mais dans la même multipropriété, on a un club de Première Ligue, on voit qu'on devient vassal de ce club. C'est le cas, par exemple, à Lorient, qui, malgré des négations de son propriétaire, va devenir un club. D'ailleurs, le propriétaire de Bournemouth le dit, je veux que ce soit ma farm team, c'est-à-dire que mon équipe qui alimente mon poulailler, mon équipe qui alimente mon équipe de Première Ligue. John Textor, il s'est fait pigeonner à Crystal Palace. C'était un pigeon, il s'est fait pigeonner. Crystal Palace, sortie du Covid, avait besoin d'argent frais pour développer une partie de ses infrastructures, avait besoin de combler un trou de financement. Ils ont trouvé John Textor. John Textor, il rentre dans le capital du club, d'abord 40%, ensuite 45%, mais il n'a que 25% du droit de vote. Donc en fait, lui, il veut vendre ça. Il valorise le club quasiment 1 milliard. Il pense qu'il va le vendre 45% d'un milliard, mais qui va arriver en n'ayant aucun, absolument aucun pouvoir, aucune voix au chapitre, d'autant plus que les actionnaires actuels ne veulent pas vendre. Ils rient sous cap, c'est David Blitzer, qui a déjà lui-même une galaxie de multipropriétés, notamment en Belgique, il a Augsbourg, il a Beveren, il a des clubs en Espagne, et il y a Steve Parrish, qui est l'operating partner qui a des parts, et qui gère Crystal Palace au quotidien. Eux lui disent, t'es bien gentil, mais nous, on te rachète tes parts quasiment rien, puisque t'as besoin de les vendre pour ensuite acheter Everton. Et par contre, si tu veux nous racheter les nôtres, bah ça va valoir de l'argent, parce qu'on sait que t'es pressé pour acheter Everton. Mmh. Donc en fait, il est complètement bloqué. Et il est bloqué aussi par rapport à l'Olympique Lyonnais, parce que au niveau d'Eagle, qui est sa holding, qui détient Molenbeek, Botafogo, qui détient l'Olympique Lyonnais, il a emprunté beaucoup d'argent à Arès, qui est un prêteur alternatif, plusieurs centaines de millions d'euros, plus de 400 millions d'euros. Et comment il veut sortir et rembourser Arès? Il veut faire coter son véhicule.
Excuse-moi, David, Arès,
c'est un prêteur. ARES, c'est un prêteur, c'est un énorme fonds d'investissement. Okay. Il a été un fonds de dette qui a prêté plusieurs centaines de millions d'euros.
D'accord.
Donc, lui, pour rembourser Arès, il veut coter son véhicule en bourse. Mais pour coter son véhicule en bourse, il faut qu'il y ait un club de première ligue. Parce que, bien évidemment, ce sera attractif. Donc, en fait, des deux côtés, Lyon est un peu bloqué. C'est-à-dire que ce soit Everton, ça risquerait d'être court, ou que ce soit un autre club, il y a des clubs qui sont plus ou moins en vente, Brentford, Mathieu Denham a dit vouloir vendre, Wolves, Fosun, le consortium chinois, a des problèmes de trésorerie. Mais à partir, le but de John Textor, c'est de faire passer l'Olympique Lyonnais en second dans la hiérarchie. Puisque un club de première ligue, ça génère au bas mot 120 millions d'euros de droits télé par an. Et nous, en France,
bien sûr,
on est bien entendu handicapé par la non-visibilité sur les droits télé et par la faiblesse des droits télé, par la faiblesse des revenus. Et en plus, à Everton, il s'intéresse à Everton pourquoi? Parce que c'est en faillite, 777, ouais. La problème 777, et il y a un nouveau stade qui est en train d'être construit. Et ce nouveau stade, il va valoir lui seul plus de 800 millions de livres.
La question, c'est ne peut-on pas, et dans le cas de John Textor, hein, s'il venait à racheter Everton, être aussi ambitieux avec Lyon qu'avec Everton? Là, on parle quand même d'une locomotive Ligue 1 aussi, hein. L'Olympique Lyonnais, il a commencé à bien travailler. Il sera européen la saison prochaine, pas encore à la hauteur de ses ambitions en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui empêcherait d'être ambitieux à Everton et également à Lyon?
Bien évidemment, tu peux, mais après, John Textor, il a aussi des moyens financiers limités.
C'est pas forcément pyramidal pour lui, tu vois.
Non, c'est pas forcément pyramidal, mais ses investisseurs, tu penses qu'ils vont lui demander d'avantager qui? L'équipe qui génère 200 millions d'euros de droits télé et de revenus par an, l'équipe qui a des revenus plus ou moins sécurisés de plusieurs centaines de millions d'euros, ou Lyon qui est bien évidemment un club immense, et je veux pas du tout dénaturer la qualité et la magnitude du club, mais qui aura une source de revenus un peu moindre, d'autant plus que John Textor veut déjà vendre l'Arena, il y a question de céder l'exploitation du stade, il y a eu plusieurs en fait.
Non, mais le truc, moi j'ai une question, David, c'est quand il achète les parts, que tu as dit là, j'ai bien compris qu'il a 45%, mais qu'il valent que 25% des
droits de vote.
Du droit de vote, donc c'est-à-dire qu'en fait il ne peut décider de rien. Mais qui lui conseille, en fait? C'est juste pour mettre un pied en première ligue, il se dit qu'il va racheter après. Et qui lui conseille ça, en fait?
Moi, je pense qu'il était naïf. Il connaissait pas du tout le monde du football. Il a mal analysé la composition de son actionnariat.
Il n'est pas tout seul à décider, si.
Non, mais après, écoute, si tu prends le point de vue d'un investisseur qui prête de l'argent à Textor, pour investir dans Crystal Palace, les droits de la première ligue s'apprécient.
Oui, okay,
Crystal Palace sportivement. Donc la valeur de Crystal Palace qui a un permis pour construire un nouveau stade, elle s'apprécie. C'est pas bénéfique pour Textor, mais pour celui qui lui a prêté de l'argent, il se dit, moi mon argent, je vais le revoir.
Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, moi ça m'intéresse, hein, tu le sais, tout ce qui est économique, l'immobilier, mais en fait on est en train aujourd'hui de spéculer sur des clubs de foot comme on spécule sur des immeubles, et le souci c'est qu'un club de foot c'est tout sauf un immeuble.
C'est pas tout à fait nouveau, hein, Kevin.
Non, mais attention, parce que là
ça a toujours été un investissement.
Ça a toujours été un investissement, mais là quand même, ce qui nous explique, je sais pas moi, quand t'achètes un tantième de ton immeuble, t'as marqué combien de droits de vote tu as, et en général tu es quand même content puisque ça va avec avec la
c'est
part
proportionnel
les
avec
voilà
avec
exactement avec c'est le mot merci. Ricardo, c'est proportionnel avec ton achat, mais là quand même ça peut ne pas être proportionnel. Alors tu peux mettre un pied dans le marché anglais, mettre un pied sur la première ligue, mais il y a autre chose. La multipropriété, forcément c'est déjà très compliqué, mais quand c'est un petit club qui a du mal avec son marché, tu sais, les Américains parlent de marché en termes de franchise et de club, je peux l'entendre. Lorient, je peux l'entendre, qu'il soit dans une multipropriété avec
et notamment une locomotive
avec Bournemouth.
Mais c'est Bournemouth, la locomotive, un stade de 11 000 personnes.
Oui, non, mais t'as compris, ça reste quand même la première ligue.
J'entends,
ça reste la première ligue. Voilà. Trois, ça s'est pas du tout bien passé.
Toulouse et Milan.
Voilà. Mais là, c'est l'Olympique.
Une hiérarchie sportive.
Mais là, c'est l'Olympique Lyonnais.
Et donc en fait,
l'Olympique Lyonnais. Non, c'est eux qui devraient avoir une galaxie. Tu vois ce que je veux dire?
Ils ont
l'ASVEL.
Tu dis qu'ils devraient être en haut de la pyramide. C'est
ils sont en haut de la pyramide.
Pour l'instant.
Et ça risque de changer.
D'où ma question, David, en vitesse. En plus, dans le chat, j'ai vu, ça a défilé le 11 lyonnais. Un salut à lui.
Ouais.
Parce que justement, Lyon n'est pas un club trop gros pour être vassal d'un club de première ligue.
Mais trop gros, pourquoi en fait?
Mais trop gros, là on parle. vraiment football, hein. Je parle pas bien sûr. D'un point économique.
Mais Ricardo Lyon, à côté d'un top 10 première ligue, c'est petit.
Non, mais c'est pour ça. Mais moi, je te parle
en termes de recettes.
Mais là, on est dans une chose sur le côté historique. Il veut côté football, en fait. Mais toi, t'as raison. Toi, t'as raison parce que tu parles sportivement. T'as raison parce que tu parles tactique, parce que tu parles technique. Mais lui, il veut coté un véhicule en bourse, en fait. Et en bourse, il aura des investisseurs qui vont voir.
Quand tu dis un véhicule, précise parce que.
Un véhicule, pardon. Eagle. Il veut coté sa structure qui s'appelle Eagle, qui détient.
Entreprise.
Qui détient tous les clubs. Sa structure, ouais. En bourse. Il va à côté de la bourse.
Mais est-ce que tu te rends compte que, moi, je comprends tout à fait, je suis d'accord avec toi, puisque souvent, et d'ailleurs, grâce à RMC Sport, j'ai commenté pendant des années la première ligue, et je me suis rendu compte de ce qu'est le football anglais, de ce que sont même les petits clubs, comme Everton ouais. Comme, enfin, les petits clubs, ouais, les clubs moyens, mais même les petits clubs comme Crystal Palace, comme Fulham, les joueurs qui sont là-dedans, de toute façon, tous des internationaux, tous des
joueurs
de grande qualité, etc. Mais est-ce que tu te rends compte que pour un Français, qui est dans le football français, qui pense encore que parce qu'on est champion du monde mais deux fois sur les 25 dernières années,
Lyon, on
est
fait demi-finale.
Il y a énormément de Français qui pensent qu'on est un grand club, on est un grand pays de clubs de foot.
Kevin,
il y a beaucoup de gens. Non, mais pas du tout dans le football français. Tu parles avec
les
gens
qui veut te dire que c'est un immense championnat.
Mais je te le dis pour les gens qui travaillent dans le football français. Le football français, on est champion du monde. Il y a encore pas si longtemps, on a fait une finale. On est les meilleurs. Ils pensent qu'on est les meilleurs. Et ça, c'est problème. Mais je dirais quand même que on est en train de dire que Lyon pourrait devenir dans une pyramide en dessous Everton. Mais ces gens-là, ils ne le comprendront jamais, en fait. Alors que factuellement, c'est réel. Économiquement, Lyon est en dessous d'Everton.
Non, mais c'est pas naïf.
Le classement des clubs les plus valorisés qui valent le plus cher. Mais il y a l'écrasante majorité de la première ligue. Grâce au travail centralisé de la négociation des droits.
David, le dernier de première ligue prend combien droits télé par saison?
Alors, je peux te le dire, il prend 108 millions parce que le nouveau salary cap, le plus gros club pourra dépenser 5 fois ce que le plus petit prend en droit télé. Et le seuil a été placé à 520 millions par an en salaire.
Ce qui équivaut à ce que prend chez nous en France le deuxième ou troisième de Ligue 1 en droit télé.
Ah non,
c'est
beaucoup plus que le premier. Le premier, bien évidemment, ouais. Bien évidemment. Donc c'est pour ça que tout le monde veut et John Textor s'est aussi positionné sur un club potentiellement ambitieux de Championship. Donc là, ça pourra peut-être soulager l'Olympique Lyonnais qui va pas être bien évidemment vassal d'un club de Championship. Mais c'est pour aller chercher les droits télé anglais. Pourquoi vous croyez que cet après-midi Leeds Southampton, on l'appelle le match le plus cher du monde? Parce qu'au bas mot, c'est 200 millions d'euros garantis. 120 droits télé, plus de 80 de parachutes s'ils descendent.
Et c'est d'ailleurs Southampton qui
200
a
millions
son billet.
Pour la première ligue. Le Cédric Forêt de Championship.
Bon voilà, bien sûr, on va suivre ça avec attention parce que ça peut impacter les ambitions sportives lyonnaises dans les prochains mois. John Textor a du mal pour l'instant à reconnaître qu'il s'intéresse à Everton en particulier. En tout cas, il cache quasiment pas ses velléités.
Ah non, il est trop honnête.
Voilà, d'être majoritaire.
Mais parce qu'il y a des investisseurs, il doit les rassurer aussi.
Et en fait, on peut dire que peu importe le club de première ligue, il sera toujours en haut de la pyramide, au-dessus de l'Olympique Lyonnais, dans sa pyramide à lui, dans sa galaxie en tout cas. Ça semble assez clair. Bon, on en reparlera bien sûr dans les prochaines semaines. Merci David pour cet éclairage. Dans un instant, on va parler de Marseille également, la victoire en Coupe Gambardella. Raconte-t-elle qu'il faut faire plus confiance aux jeunes à Marseille les prochaines saisons? Tiens, dans un instant, Romain Caluti sera avec nous. Il va nous parler des pépites marseillaises actuellement au centre de formation. Reste avec nous, Génération After sur RMC. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Ricardo Patti, David Guzman et Kevin Diaz. Merci d'être avec nous sur RMC. Il est 21h18. Alors, je voulais qu'on parle également ce soir de l'Olympique de Marseille, car événement hier à Lille, pour la première fois depuis 1900.
79, l'OM a remporté la Coupe Gambardella. 45 ans après, donc 4 buts à 1 face à Nancy. Un gros écart entre ces deux formations, les U19 marseillais et U19 nancéens. Immense fierté à Marseille de voir enfin une génération triompher, trop longtemps raillée pour son incapacité à former des jeunes compétitifs. Alors on a convoqué ce soir notre ami du Fosséen et également de l'After. Romain Canuti est là ce soir. Salut Romain.
Salut Nico, salut Kevin, Ricardo, David, ravi d'être avec vous.
Salut Romain.
Surtout
salut
pour Romain. Parler de ce beau sujet.
La voix, vous avez vu, est frêle. Hein. Je ne sais pas s'il a fêté la victoire en Gambardella, Romain.
Exactement.
Peut-être l'émotion.
C'est ça, ça a repris tout le répertoire de Queen après la victoire, donc forcément, ça se paye.
Bon, raconte-nous, comment est vécu à Marseille cette victoire du 19? J'imagine qu'elle rend fière également.
Oui, totalement. Ben, c'est... Il y a tout un contexte, c'est-à-dire que ça faisait une dizaine de jours qu'on était à Marseille très inquiets et qu'il y avait pas mal de supporters qui parlaient un peu de scandale parce qu'il y a trois joueurs, les trois joueurs clés, ben, par définition, les trois joueurs appelés en équipe de France. Donc, Sternal, Bacola notamment, dont on a beaucoup parlé, et Celani qui était en équipe de France et donc pas dispo
pour cette finale. U17 pour l'Euro, c'est ça, ouais.
C'est ça. Et donc, du coup, tout le monde était à se dire, mais c'est un scandale, il nous les faut. Cette finale de Gambardella, on l'a pas joué, oubliant un peu que dans le développement d'un jeune, c'est pas si important que ça. Mais pour nous, c'était une finale de Coupe du Monde du vin parce que justement, il y a cette date. Cette attente-là. Et donc, du coup, se dire que derrière, tout le monde s'est un peu mis sur le match et de voir cette victoire bon, qui se dessine assez vite. Et puis voilà la belle histoire avec Kélan Abdallah avec sa petite bandelette alors qu'il y a son oncle qui commente le match. Voilà le fait de réaliser ça assez vite sur le match, le contexte avec les supporters parisiens, lyonnais qui ont pas brillé par leur intelligence sur ce coup-là. Je suis pas dupe, hein. Il y aurait eu une finale avec des jeunes du PSG à Marseille. Il y aurait peut-être eu certains qui auraient eu d'aussi mauvais comportements. Mais voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que... Et puis la saison de l'OM, évidemment, qui fait qu'on se dit, bah tiens, on a droit au bonheur une deuxième fois cette saison. Je dis une deuxième fois parce qu'il y a eu bien sûr Dortmund qui nous a régalé.
Évidemment, le taquet traditionnel. Est-ce que c'est un peu court de dire que cette victoire en Gambardella valide aussi le projet d'une formation plus
ambitieuse,
plus ambitieuse à l'Olympique de Marseille après des années de quasi abandon de la formation marseillaise?
Oui, c'est un tout, parce que si on regarde bien cette formation, les joueurs qui composent cette équipe qui ramène le titre, ils ont été choisis par Nasser Larguet au final pour la plupart. Donc on pourrait se dire, bah tiens, c'est peut-être le travail d'avant, les graines qui ont été plantées avant. Et on voit bien d'ailleurs que du côté de Pablo Longoria, rappelez-vous qu'il avait été bien critiqué en début de saison pour sa politique de jeune, là il fanfaronne pas non plus à ce niveau-là, donc ça peut se comprendre. Et en même temps, il y a une décision de Marco Otero qui est l'homme du centre de formation et placé par Pablo Longoria, qui a pris une décision de retirer certaines équipes, de surclasser certains joueurs, et c'est une politique, une stratégie qui porte aussi ses fruits. Après, personne n'est dupe, personne ne se dit là il y en a quatre dans l'équipe qui vont composer la future ossature de l'OM. On sait comment ça se passe pour les finales de Gambardella. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, avec Kevin sur le plateau, on avait un débat sur Lyon et je lui parlais de Delarouche.
Oui.
Qui, je me souviens, avait fait un super match, une super gambarde avec Lyon. Et je me suis dit, à un moment donné, il va avoir sa chance. Et puis, voilà. Bon, force est de constater que c'est Kevin qui avait raison. Delarouche, on l'a jamais vu avec les pros à Lyon. Alors, c'est pas fini. Et bien sûr, on va pas annoncer une fin de carrière. Faut pas. Mais si on l'a pas vu depuis ce temps, c'est qu'il y a une raison.
Ouais, mais Romain, après, on a quand même une base intéressante à l'OM. Pour une fois,
oui,
je pense qu'il faut quand même capitaliser là-dessus.
Il faut dire que tu les as joués, hein. Les U19 marseillais, c'est ça?
Non, moi non. Je Toulouse. Enfin, moi, je coach à Versailles les U18. On a fait un joli parcours en Gambardella. On a perdu en 8e de finale contre les Toulousains, qui sont aussi très très bons, qui ont une très belle génération, 2006-2007. Mais Romain, côté marseillais, je pense qu'il faudrait quand même
comment, je pense que ça peut être une bonne base pour entamer un nouveau cycle, on va dire, de formation et de promotion.
Promotion des jeunes en équipe pro?
Totalement.
Moi, je suis complètement d'accord.
Mais la question, les gars, excusez-moi, enfin, débat, mais est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui, même dans cette équipe, hein, mon cher Romain, qui sont aptes, qui peuvent apporter une plus-value à l'effectif professionnel?
Je peux répondre juste à Romain, parce qu'on avait parlé en effet de El Arouche l'an dernier. Alors, Ricardo est en plus en U19 R1 cette saison, donc il sait. Bien sûr qu'il y a des très bons jeunes en France. Bien sûr que notre formation, elle fonctionne très bien. Et d'ailleurs, plus que cette gambardée-là, pour moi, c'est la finale du championnat de France U19 l'an dernier, qui était un beau marqueur pour l'Olympique de Marseille, sachant que je crois que les U17 avaient perdu en demi-finale. Donc ça, c'est le marqueur que le centre de formation marseillais, déjà depuis plusieurs saisons maintenant, fonctionne très bien. Maintenant, regardez les vainqueurs de gambardée-là. Moi, j'en ai plein qui m'envoient des CV. Ah, il a fait une finale de gambardée-là en 2012. Ah, il a gagné la gambardée-là en 2018. Mais en fait, aujourd'hui, tout ça, vous parlez des jeunes, vous avez qu'à regarder. Aujourd'hui, les championnats de National 2, le nombre de réserves professionnelles qu'il y reste. Zéro l'année prochaine. Ok, aucune. Donc quand je dis que le niveau National 2 en France est très élevé, alors, même les meilleurs jeunes français et leurs équipes n'arrivent pas à ne serait-ce que se maintenir, et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. En N3, il n'y en a même plus beaucoup. Il y en a aussi beaucoup qui sont en R1. Non, c'est pas un autre débat, c'est le même. C'est-à-dire que si on pense qu'un U19 qui réussit a gagné la gambardella, qui fait une belle saison en U19 et prêt pour le football professionnel, non. Est-ce qu'il est même prêt?
Il ne s'agit pas de l'insérer comme un titulaire à part entière de l'Olympique de Marseille. Je pense que Marseille, ceux qui nous écoutent savent ou connaissent le potentiel de certaines individualités.
Il y a toujours bien sûr des exceptions qui confirmeront la règle, mais je confirme que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est ce qui se passe notamment au Portugal, notamment en Hollande maintenant depuis plusieurs années, c'est-à-dire que les réserves qui accèdent jusqu'à la Ligue 2, là c'est intéressant, parce qu'on laisse les ou même ce que fait Monaco avec leur réserve championnat, mais qui a un groupe élite avec David Perrinel, voilà, qui fait un championnat vraiment où ils voyagent et tout, ils sont déjà habitués aux déplacements, etc. Et notamment un gars comme Magnès Akliouche, qui lui est arrivé à maturation maintenant, mais quel âge il a, Cliouche? Il a 21 ans. Donc en fait, à 21 ans, tu es prêt au niveau. Mais à 19 ans, c'est très compliqué.
Bien sûr, mais après, quand on parle de N2, N3, après, c'est surtout au niveau de la politique des équipes, des clubs. Parce que maintenant, tu le sais très bien, de plus en plus de réserves pro jouent très très jeunes. Ils jouent assez
trop jeunes.
Et ils sont pas prêts pour jouer
la N2. Mais c'est pour ça que je te dis que même pour la N2, ils sont pas prêts. Alors pour la Ligue 1, c'est
une question politique. Après, attention, moi, j'ai jamais dit que ces joueurs-là, on parle d'Enzo Sternal, de tous ces des jeunes joueurs Bacola qui sont excellents, mais ils sont encore jeunes. Ils ont 16, 17 ans, même pas encore majeurs.
Mais Ricardo, eux, c'est aussi leur volonté. C'est ça le problème. C'est que Sternal et Bacola, nous, on fait un débat là, et c'est très bien. Mais le débat, il est déjà fait dans la famille de Sternal et dans la famille de Bacola. Et alors que les deux, qui sont les deux plus talentueux, on rappelle, et qui ne jouaient pas hier, eux, leur demande, c'est déjà de dire, on aimerait des garanties sportives.
Un peu comme Isaac Liadji à l'époque.
Du temps de jeu, les garanties sportives.
Ouais, alors Liadji, c'est différent. Honnêtement, sans me vanter ou quoi que ce soit, tu voyais dans ce qu'il y avait un talent. Hein, c'était un petit Di Maria, Liadji, sur ses années, sur ses jeunesses. Ouais. Mais tu sentais, peut-être la personnalité qui allait manquer pour passer pro. Et là, je vois des joueurs, notamment ce Gaël Lafont. Donc on voit
ce visage. Qui est rentré déjà contre Benfica d'ailleurs.
Voilà, qui était rentré comme Benfica. Il y avait cette photo où on le voit sourire. Alors, tu fais pas une carrière sur un sourire. Hein. Il y a Pierre Aristouy qui avait gagné sa place à Nantes sur le banc avec une photo dans l'équipe. On a vu que ça a tenu 4 matchs. Gaël Lafont, il a pas que ça. C'est un joueur qui là sur la finale a gagné tous ses duels et qui est déjà dans une mentalité de pro qui me fait dire que même si c'est pas sur la ligne de départ le plus talentueux, il va pouvoir aller gratter quelque chose.
Pour ça, mais messieurs, vous savez, souvent je dis, et tout à l'heure t'en as parlé avec Ricardo, qu'il ne faut pas faire jouer les jeunes trop tôt.
Trop tôt, bien sûr.
Mais vous savez pourquoi? Parce que je le dis à chaque fois et je le répète encore une fois ce soir. Et ceux qui ne le comprennent pas ne pourront jamais travailler dans un club de foot. Lorsque tu fais jouer Warren Zaïre-Emery, lorsque tu fais jouer Kylian Mbappé à ces âges-là, lorsque tu fais jouer Pedri, en fait, ça rentre dans la tête de tous les entourages et de tous les parents.
Oui, bien
donc
sûr.
Ça sert celui-ci, mais ça dessert tous les formateurs qui sont derrière.
Attention, pour finir, Kevin, moi, et Romain aussi, d'ailleurs, moi, je ne pousse pas ces jeunes-là à avoir des garanties sportives. Moi, je pousse Marseille, je pousse l'OM à avoir une politique. de jeunes. C'est pas la même chose.
Alors ça, Ricardo, ça c'est.
Il faut avoir le discours. Romain, je termine. Ouais. C'est pour ça, moi, j'encourage des. Maintenant, les mecs qui sont en place, en plus, je les connais trop bien, force est de constater, c'est Mehdi Benatia. Personnellement, s'investir dans la formation. Mais moi, je te parle pas de garantie sportive. Moi, je ne veux pas ou je ne souhaite pas aux jeunes de 16 ans d'aller au feu en Ligue 1 dès la saison prochaine. Prendre tout, en plus, surtout à l'OM, prendre des grosses responsabilités et après se brûler les ailes. Non, moi, je parle d'un accompagnement et d'une politique sportive pour faire comprendre aussi aux jeunes. Étape par étape.
Voilà, on a un plan sur le moyen terme avec toi.
Et d'ailleurs, David, en fait, ce qu'on reproche, d'ailleurs, peut-être Romain va le confirmer, ce qu'on reproche à la gouvernance Longoria, au-delà des résultats qui sont plus ou moins bons sur le moyen terme, c'est le manque d'identité. C'est que les Marseillais n'arrivent pas à s'identifier à leur équipe. Il y a trop de trading, il y a trop de turnover d'entraîneurs, il y a trop de mouvements. Et là, en fait, tu as un joueur qui s'appelle Enzo Sternal, qui est un des meilleurs de France, de sa catégorie. Lui, ce qu'il demande, c'est un parcours. Il demande un chemin. Il demande pas qu'on lui ouvre la porte, mais il demande un parcours. Oui, il demande pas de garantie.
Il demande qu'on soit considéré.
Romain.
C'est à lui, en fait, de se le créer. Et par rapport à ce que tu disais, Ricardo, sur le projet, ça pourrait presque porter un nom. Ça, pour moi, c'est le projet Lucas Perrin. Je ne sais pas si vous vous rappelez Lucas Perrin, mais à un moment donné, il y a quelques saisons, il y a eu des suspensions, des blessures en défense centrale. André Villas-Boas, à un moment donné, hésite à faire jouer Kevin Strootman en défense centrale. Et Strootman participe à la réflexion en disant « Mais non, il faut lancer le jeune. » Lucas Perrin a l'occasion d'enchaîner 3 matchs de Ligue 1 consécutifs. Derrière, il s'est fait une place. Derrière, Lucas Perrin, il s'est fait une place en Ligue 1. Donc ça, quelque part, c'est de dire, par rapport au projet, comme vous disiez, c'est de dire à des Sternal, à des Bacola, je pense, dans le projet, vous êtes dans le groupe, il n'y a pas de garantie de temps de jeu, mais si à un moment donné, il y a une opportunité, d'aller chercher un Luis Enrique de retour de prêt du Brésil, alors qu'on sait que ça n'a pas forcément marché et qu'on le voit pas faire de différence, faire que des passes faciles, entre guillemets, ben, à ce moment-là, on va peut-être vous donner la chance à vous.
Mais financièrement, vous allez devoir le faire.
Mais c'est même pas de devoir le faire, les amis. N'importe quel club veut faire jouer ses jeunes. Si le gars est bon, le gars lui a coûté juste sa formation, il n'a pas besoin d'envoyer 10 millions pour aller prendre un jeune dans je ne sais quel championnat. Bien sûr que Marseille, n'importe quel club, si t'as un phénomène, si t'as un mec qui est mature, si t'as un mec qui est mature, si t'as un mec qui peut jouer à 18 ou 19 ans, bien sûr il va jouer. Mais qui va dire qu'il va pas jouer? Par contre, aujourd'hui, quand
tout dépend du contexte,
le problème que les joueurs et que leur famille ne veulent pas comprendre, c'est qu'il y a quasiment aucun joueur en France aujourd'hui qui a moins de 18 ans peut jouer en Ligue 1 titulaire 25 matchs. Il y a des étapes à respecter. Okay. C'est tout.
Bon, voilà pour le sujet passionnant. On va suivre ça, bien sûr. Romain, merci d'être venu. On te retrouve bientôt sur RMC dans l'after. À très vite. Bonne soirée à toi.
Salut Romain.
Avant de parler de Wissam Ben Yedder, un Français en train de gifler le finaliste du Master 1000 de Rome il y a 10 jours. Eric Sadio, Corentin Moutet fait un match incroyable.
Tout ce qu'il touche se transforme en or. Je pense que Jarry ne sait plus jouer au tennis. Le score, c'est important, il y a 6-2, 5-1. 6-2, 5-1, je répète, pour Corentin Moutet face, effectivement, tu l'as dit, à un mec qui est tête de série ici, qui vient de faire finale à Rome et qui ne sait plus quoi faire. Il est totalement perdu. C'est hallucinant ce que réussit à faire Corentin Moutet avec toutes ses armes. Et là, il vient de même se télescoper avec un ramasseur de balles, le pauvre Nicolas Jarry. C'est pas sa soirée. Autre chignon au tapis, Tabilo. Tabilo sorti par Zizou Berg.
Incroyable
histoire. Rome. Le prénom de Zizou, vous raconterai plus tard. Incroyable.
Merci beaucoup, Eric.
Amazon vous livre Roland Garros. Dès 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video.
On veut savoir.
Payant obligatoire, voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
On veut savoir pourquoi Berg s'appelle Zizou, effectivement. Eric vous le dira dans la soirée, bien sûr. C'est un magnifique teasing.
Juste, est-ce que c'est vraiment le football, le tennis qu'on aime, du coup
Roland Garros, bien sûr, les chemisettes rougies par la terre battue, les hommes par terre glissent.
Moutet, là, c'est vraiment le tennis qu'on aime.
Bien sûr. Ça, c'est le magicien.
C'est le tennis de 100 euros.
Ouais, exactement. Tu peux comparer ça à ça. C'est un tennis de toucher de balle, un tennis
provoqué. Walid va venir, c'est
magnifique. Bon, sachez que le Barça mène 1-0 hein, dans son dernier match de la saison Liga sur la pelouse de Séville. C'est Robert Lewandowski qui a ouvert le score. Et puis, sachez également que le FC Porto a remporté la Coupe du Portugal de buts à 1 face au Sporting grâce à des buts d'Evan Nilsson et de Taremi. Dans un instant, on parle de l'AS Monaco qui pour remplacer Wissam Ben Yedder. Mais fallait-il le garder à tout prix? Reste avec nous. C'est RMC, c'est Génération After.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Génération After avec Kevin Diaz, avec David Guzman, avec Ricardo Fati. Dans un instant, on parle de l'AS Monaco. On parle de Wissam Ben Yedder, dont le départ a été officialisé. Il est arrivé à la fin de son contrat. Êtes-vous surpris? Aurait-il fallu le garder, le prolonger donc, et qui pour le remplacer? On va en débattre dans un instant sur RMC ensemble. D'abord le tennis. Roland Garros, Eric Salio, c'est incroyable. 2-7-0 pour Corentin Moutet face à Nicolas Jarry, 19e joueur mondial.
Oui, et puis un score incroyable, 6-2, 6-1. Il est en train de l'écraser, de le ridiculiser. Alors attention, il y a encore un set à aller chercher, mais c'est une sorte d'état de grâce. Comme je disais, tout ce qui touche se transforme en or. Il lui fait l'amour, mais il fait tout, quoi. Des amortis, des changements de riz, des accélérations. L'autre ne sait plus où il habite. C'est impensable.
Il y a 30 cm d'écart entre les deux aussi.
Ouais, hein, mais son aventure au Chili l'a transformé, je pense.
Le match l'a marqué parce que il l'avait gagné ce match, mais il avait été pourri par le public de Santiago. Et donc, sur les réseaux sociaux, il avait annoncé la couleur. Il a dit, OK, on se retrouve. Je veux une ambiance à la chilienne. Incroyable. Et quand il est entré sur le court, Jarry s'est fait siffler. Il a eu un petit sourire. Je peux dire qu'il rigole plus, hein. Il sait pas il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive.
Très bien. Wawrinka Murray, combien?
Un 7-0 pour Stan.
Ouais, ça ne se casse pas du tout.
J'ai le nez sur mon écran. Bon. Forcément.
Ce qui nous intéresse également, c'est l'histoire de Zizou Berg, qui a tapé le Chilien Tabilo, qui avait fait demi-finale à Rome.
Il sort des qualifications.
Pourquoi cet homme-là? Nationalité Zizou Berg, rappelle-nous.
Belge.
Pourquoi s'appelle-t-il Zizou?
Alors, il se trouve que...
Tu l'as fait en une minute, même pas, hein, 40 secondes.
Mais il se trouve que je suis allé manger à la cantine tout à l'heure et je tombe sur des confrères belges.
Ah, bien.
Et ils me racontent l'histoire et ils me disent, c'est très simple. Le père de Zizou jouait au foot. Donc, ils attendaient un enfant, ils étaient sûrs que c'était une fille. Et là, stupeur, c'est un garçon qui sort. Alors là, ils sont vraiment... ils savent pas quoi faire. Oui. Et le père, qui joue au foot dans une équipe, et dans leur équipe, ils avaient tous des surnoms. Et lui, son surnom, c'était Zizou. Alors, il dit, on a qu'à l'appeler Zizou.
Ah ouais, non, mais
il s'est passé à l'état civil. Et voilà comment il s'appelle, Zizou Berg. Il est né en 98, hein, comme par hasard. Hein.
Ah ouais. Je sais pas si c'est un cadeau ou pas. Non. Je suis pas sûr quand même.
Zizou, tu me dis à la rigueur, Zinedine.
Ouais, Zinedine, pourquoi pas Zizou, tu vois. Mais Zizou,
et le mec joue très très bien. D'accord.
Zizou, le prénom, c'est.
Le mec s'appelle Zizou à vie, ouais, c'est terminé. Voilà.
Même
Zizou.
Les Brésiliens n'auraient pas osé.
Vous savez que l'histoire, c'est que
de l'homme, quoi.
C'est que les Congolais non plus. L'histoire, elle remonte plus loin. C'est grâce à Roland Courbis qui s'appelle Zizou Bergs. Car c'est Roland à Bordeaux, au Hayan, qui a donné ce surnom à Zinedine. Ouais. Yazid, il voulait pas l'appeler Zinedine. Un jour à l'entraînement, il m'a raconté Zizou, je t'appelle comme ça, c'est plus simple. Ouais. Voilà pourquoi. Tu le diras à Bergs, hein, souvent en conférence de presse, Eric, hein, c'est grâce à Roland Courbis, un truc qui s'appelle Zizou.
Roland, il va demander un pourcentage sur le prize money.
Ah oui, tu le connais. À tout à l'heure, Eric.
Ciao.
Monaco, Ben Yedder va donc quitter l'AS Monaco. Hein. 5 saisons, 201 matchs, 118 buts, il va forcément laisser un grand vide. Ben Yedder, c'est donc 23 buts en moyenne par saison, toutes compétitions confondues. Meilleur buteur surtout de l'ASM chaque saison. Et de loin, Monaco se déleste aussi de son plus gros salaire, 650 000 euros par mois. Aucune proposition de prolongation n'a été faite. Jamais la direction n'a évoqué, pour expliquer ce départ, la mise en examen de Ben Yedder pour agression sexuelle, tentative de viol et viol. L'enquête est en cours, bien sûr. En tout cas, ça n'a pas été mis en avant pour expliquer la fin d'aventure de l'international français. Bref, Monaco perd un attaquant fiable, très fiable. Question, Ricardo, déjà, fallait-il tourner la page Ben Yedder? Oui. Il faut aussi avoir en tête cette affaire judiciaire, hein, bien sûr. Hein, je pense que quand tu es dirigeant,
même quoi qu'il arrive.
Au-delà de l'affaire, je pense que il fallait tourner la page de Wissam. Après, ça reste encore un super attaquant, super efficace. Je pense qu'il est arrivé à la fin de quelque chose là-bas, à la fin d'un cycle. Il a fait 5 saisons, il a 33 ans, il aura 34 ans en quelques mois. Donc Monaco s'est plus ou moins armé offensivement avec Balogun, tout ça. Donc je pense que oui, il est temps aussi pour lui de voir autre chose après 5 ans. Je pense que bon, logiquement, il y a aussi peut-être aussi l'Arabie qui peut le tendre les bras, sachant qu'il a raté encore, même si c'était très prévisible, il a raté le train de l'Euro. De l'équipe de France. Donc voilà, je pense qu'il est temps pour lui de tourner la page. Et voilà, sans rentrer vraiment dans ces détails.
Hein, oui, bien sûr, sportif, bien sûr.
Sportivement parlant, c'est mieux pour Monaco.
Kevin, qu'est-ce que t'en penses, toi? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Hein. On pensait que Balogun allait prendre le relais. Il fait une saison catastrophique. Balogun, il sera encore là la saison prochaine, logiquement, avec peut-être une recrue à venir. Kevin, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais au vu de, comme vient de le dire Ricardo, au vu de tout ce qui s'est passé pour Wissam Ben Yedder sur les derniers mois, il a été performant malgré tout. L'AS Monaco a déjà préparé l'avenir en recrutant l'été dernier Balogun, qui a mis une saison à s'adapter, mais ça reste quand même un gars qui est capable de marquer des buts. On a le retour aussi de Mbolo. Donc bon, il y a quand même du monde. Et je pense qu'ils auront sûrement la masse salariale nécessaire pour aller chercher un joueur, puisque c'était quand même, je crois, le plus gros salaire du vestiaire.
650 000 euros, je l'ai dit, brut mensuel. Hein. Ouais. Il a bien mangé, hein, Wissam, pendant 5 ans.
Ouais.
En tout cas, il a rendu sur le terrain, le garçon. David.
Oui, c'est évident, en fait, que c'est une page qui devait se tourner, ne serait-ce que financièrement. C'est vrai que son affaire, c'est un peu une bombe à retardement. Si au milieu de la saison prochaine, tu apprends, malheureusement, qu'il y a condamnation, qu'est-ce que tu fais? T'as gardé un gros salaire, t'as prolongé un gros salaire. Et c'est difficilement gérable. En plus, c'est un club qui est en vente, Monaco. Donc prendre ce risque réputationnel auprès d'un futur acheteur avec un joueur qui a un peu ce panneau au-dessus de la tête, c'est quelque chose de compliqué.
Que des clubs en vente en ce moment.
Il a mandaté Rennes, il a mandaté une groupe.
Tu prends un risque énorme à signer une prime à la signature d'un Ben Yedder avec un salaire qui ne sera pas à 80 000 euros brut.
Et en plus, à mon sens, un des successeurs est tout désigné et est libre.
Si tu veux, Ricardo, on fait un prêt à Arès avec David Guzman et
absolument.
Puis, on va essayer de racheter un club aussi. Hein.
Pas de souci.
Bon, en portier.
Tu parlais, tu mentionnais pas, Georges Mikotadze, bien sûr, hein, on l'a dit il y a deux jours sur RMC, selon des infos. Donc, c'est une cible concrète, discussion avec le clan du joueur avancée. Metz va lever l'option d'achat auprès de l'Ajax Amsterdam qu'il a prêté à hauteur de 13 millions d'euros pour mieux le revendre. Ensuite, il y aura du monde aussi sur Mikotadze. Il n'y aura pas que Monaco. Joueur qui fait en 20 matchs 13 buts, je ne sais plus combien de passes décisives, 3 ou 4 passes décisives. C'est phénoménal en 5 mois depuis son retour en France en janvier. On est tous fans ici. Il faut le voir maintenant à l'étage supérieur. Attention, hein, pourquoi pas à l'Ajax avec un Farioli, hein. Ils vont lever l'option à Metz, bien sûr. C'est pas un sujet. On en a déjà parlé. D'abord, j'accueille Cédric au 32-16. Salut Cédric. Bonsoir,
messieurs.
Supporter de l'AS Monaco qui est avec ses écouteurs, je pense, au haut-parleur.
Non, pas du tout, j'ai pas mis justement.
Ah, ben c'est parfait.
Vous m'entendez bien ou pas?
C'est mieux là. Ouais, nickel, Cédric.
J'ai mis la main devant le téléphone.
C'est parfait. Alors, Cédric, est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu penses que Monaco aurait dû, malgré ses déboires judiciaires pour l'instant, garder absolument et prolonger Wissam Ben Yedder?
Honnêtement, moi, je vais déjà respecter la présomption d'innocence. C'est vrai que vous en parlez, vous avez raison d'en parler. Après, il y a toujours une charte d'éthique. S'il devait, entre guillemets, hélas, être accusé de ce qu'il a fait.
Condamné,
ouais. Ouais, les clubs ont les moyens de dire on cesse le contrat parce que ça fait partie des chartes de beaucoup de clubs professionnels. Donc, je dirais rien d'autre par rapport à ça. Maintenant, je trouve que c'est un manque de respect de ne pas le prolonger. Vous parliez d'Embolo, moi j'adore. Balogun, je peux être qu'inquiet parce que l'année prochaine, oui, vous avez parlé d'étage supérieur, mais ces joueurs-là n'ont pas fait leurs preuves en Ligue des Champions, contrairement à Ben Yedder qui a déjà fait ses preuves. Et ça reste le meilleur buteur du club. Il aime Monaco et je ne comprends pas qu'on ne le prolonge pas. Je n'arrive pas à comprendre. Au-delà de son salaire, bon, oui, c'est vrai que
c'est un gros salaire. Pourquoi manque de respect?
Parce que c'est un manque de respect par rapport à ce qu'il a apporté au club. Monaco, c'est un club, Eric Dimeco en parle souvent, qui est atypique. C'est rare qu'on ait des joueurs qui aiment Monaco. Lui, il est venu parce qu'il aimait Monaco, c'était un rêve d'enfance. Et ça, pour nous, les supporters, c'est important. Donc, je trouve que c'est un manque de respect par rapport au comportement exemplaire qu'il a toujours eu. Même quand il y a eu des périodes où il était remplaçant, des joueurs de son statut auraient pu se plaindre par l'intermédiaire de ses agents dans la presse. Il a jamais fait de bruit. Honnêtement, moi, citez-moi des joueurs de son calibre qui font pas un scandale quand il reste aussi longtemps remplaçant comme il l'a été. Chaque entraîneur qui l'a mis sur le banc, il est toujours revenu sans la ramener et a prouvé qu'il avait sa place. Donc moi, je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ce qu'il a apporté à Monaco.
Mais tu veux le garder jusqu'à quand, en fait? C'était quoi la date de péremption?
Dans ce cas-là, pendant 5 ans, on peut lui donner un CDI?
Déjà, c'était possible de le prendre un an, parce que après, je ne sais pas quelle est la volonté du joueur. Peut-être que lui non plus, il n'a pas envie. Et ça, on ne le sait pas, donc je suppute. Mais par rapport à ce qu'il a fait, et puis la Ligue des Champions à venir, c'est un joueur qui est capable de marquer, qui est capable de garder le ballon, et ce qu'on avait du mal à faire. Et quand il était passé
dans un profil très singulier en plus,
qui vient du futsal, qui a été découvert à l'UGA Alfortville, qui vient du futsal, donc après.
Bien sûr, c'est pour ça. Puis quand vous regardez sa conservation de ballon, voilà, quand je dis manque de respect, mes mots sont peut-être un peu forts, mais voilà.
Attention, Mikoto Adli est capable dans ce profil-là, hein, Sylvain aussi, d'être aussi non seulement bon dans la profondeur, être un point d'ancrage aussi,
exactement.
Très bonne conservation, très fin techniquement.
En Ligue 1, mais Balogun, quand il était à Reims, il était trop fort. Vous avez vu, Arsenal, pas capable de s'imposer. Et là, cette année, on sait qu'il faut un quota de confiance pour un attaquant qu'il n'a pas eu, et ça a été compliqué quand il a raté ses pénaltys, et ça s'est enchaîné dans une spirale négative, ce que Ben Yedder n'a pas connu, et ce qu'il ne connaît pas, malgré des passages à vide, il revient toujours, il rebondit. C'est pour ça qu'il va y avoir la Ligue des Champions, et je pense que quand tu as un joueur dans ton effectif de ce calibre-là, tu le gardes.
Et
même s'il est remplaçant, il ne va rien dire, il ne va pas faire de scandale, il ne l'a jamais fait.
Non, c'est vrai qu'après, on est d'accord, hein, on est tous unanimes sur le fait que voilà, Ben Yedder, c'est un super joueur. Après, moi, comme je l'ai dit auparavant, c'est un joueur qui prend de l'âge, c'est un joueur qui a un très gros salaire. Après, je pense que Monaco n'a pas forcément de problèmes financiers.
Ouais.
Mais moi, je pense qu'il faut quand même renouveler. Il faut quand même renouveler. Je pense qu'un
Balogun, 5 saisons, c'est un bon cycle.
Forcément, il faut tenter des choses. Je pense qu'un Balogun a vraiment ses ressources nécessaires pour bien figurer au fond de l'attaque. Et je pense que ceux qui vont travailler pour trouver cet attaquant vraiment, peut-être pas le rare. Et moi, je pense que
il y a plusieurs pistes. Hein. Le confrère de l'équipe évoque également des pistes qui mènent à Karim Konaté, 20 ans, Salzbourg, ivoirien, 32 matchs, 22 buts, 8 passes. Issu de la Galaxie Red Bull aussi, que Thiago Scour connaît. Hutter connaît aussi. En plus, son agent, c'est Vadim Vassiliev. Donc, t'imagines, il y a des connexions importantes. On parle aussi d'Armando Broja international.
Broja, alors lui, ce serait une vraie mauvaise idée. Parce que Broja, c'est quelqu'un de formel.
Chelsea prêté à Fulham, 0 but, 8 matchs.
Prêté à Fulham. Fulham, dès le début, a décidé de ne pas le faire jouer parce qu'il y avait une obligation d'achat automatique en fonction du temps de jeu. Ouais. Il était allé à Southampton, ça a été catastrophique. Et c'est un profil un peu de pivot qui est trop similaire à Mbolo. Dans toutes vos discussions, vous avez aussi oublié l'aspect tactique. C'est-à-dire que Monaco a joué longtemps cette saison avec une seule pointe en 3-4-2-1. Et dans ces deux derrière, il faut un attaquant qui soit capable d'y jouer. Mais tu as quand même Ben Seghir qui doit exploser.
Ouais.
Tu as Magnès Achliouche qui doit exploser.
Tu as Bolo qui doit revenir.
Tu as Minamino qui doit revenir. Tu as Golovin. Donc, en fait, si tu veux, grosso modo, est-ce que tu as besoin en plus d'un joueur qui doit être indiscutable?
Après, Cédric, pour corroborer ce que dit David, c'est que faut prendre l'exemple d'un Minamino. Qui a commencé de manière vraiment exécrable et qui est bien revenu et qui maintenant qui s'est bien imposé. Je pense qu'un Balogun, ça peut être un motif d'espoir. Bah,
Balogun l'année prochaine, il faut que ce soit son année.
Je suis d'accord.
Si je peux me permettre, après,
un petit peu plus
de temps.
Je conclue, mais la priorité à Monaco, c'est pas l'attaque non plus. On a une des meilleures attaques du championnat de Ligue 1. C'est que la Ligue 1 depuis 5 ans. Mais on est une des plus mauvaises défenses.
C'est
on finit deuxième avec 43 buts ou 44 buts encaissés. Et ça fait 4 saisons où on prend plus de 44 buts par saison. Donc la priorité, c'est un vrai 5. Parce qu'on a Caio Henrique, on a Mandelson. Ces postes-là sont presque doublés. Mais dans l'axe central, c'est catastrophique.
Il y a Salisu qui va revenir de blessure, qui a énormément de qualité, qui a été gêné.
Cédric, merci.
Merci Cédric.
On va parler du mercato monégasque, évidemment, cet été. L'idée, c'est de se renforcer avant de retrouver la Ligue des Champions, bien sûr. Reste avec nous, ces générations after. Dans un instant, la vie de David qui ne supporte pas ses playoffs, Ligue 1, Ligue 2. Reste avec nous, Génération After sur RMC. Va y avoir débat, je crois, tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec David Guzman, avec Ricardo Fatis et RMC, c'est Génération After. Les 5 dernières minutes avant de passer la main à Gilbert, Daniel et Stéphane pour l'After jusqu'à minuit, bien sûr. On finit avec un avis de David sur un sujet d'actualité. Hein. On va vivre très bientôt le barrage d'accession Ligue 1, Ligue 2, Saint-Etienne, FC Metz. Jeudi, match aller. Dimanche, match retour à Saint-Symphorien. David, tu n'aimes pas du tout ces playoffs à la française. Jingle, David Guzman.
Il y a deux risque principal côté Everton, c'est que le
fait
principal,
mon cher David.
Principal, même, bah voilà, j'ai le droit au jingle là.
Bien sûr. Mais oui, on a que ça, mon cher David.
Il y a pas de souci. Il y a pas de souci.
Alors, pourquoi tu n'aimes pas ces playoffs? Je précise à la française.
Mauvaise traduction de l'anglais, tout simplement. On en parlait avec Kevin. Mauvaise traduction de l'anglais. Les Anglais, pour monter, les deux premiers montent automatiquement, 3, 4, 5, 6, demi-finale de play-off aller-retour, et finale de play-off à Wembley, sur terrain neutre, pour monter. Le problème des play-offs à la française, c'est qu'on a essayé de faire un mélange entre des play-offs couvriraient un peu la Ligue 2, mais au final, on referme la porte, parce que si tu gagnes les play-offs, tu joues quand même le 16e de Ligue 1.
Donc, en aller-retour.
En aller-retour, avec le retour chez le club de Ligue 1.
Ouais.
Donc en fait, c'est complètement hypocrite, c'est un cloisonnement. Imaginez Rodez.
C'est Koh-Lanta. Hein,
Rodez fait la saison de leur existence. Quatre jours après la fin de la Ligue 2, ils jouent contre le Paris FC. Trois jours après, ils jouent contre le 3e. Et ensuite, cinq jours après, ils doivent jouer chez eux contre le 16e de Ligue 1. Et ensuite, après, en retour... chez le 16e de Ligue 1.
Pour l'épreuve des poteaux.
C'est un parcours du combattant. Dans ces cas-là, très sincèrement, donnons deux montées immédiates. Alors certes, historiquement, il y a deux clubs qui ont réussi à monter via les play-offs, mais un peu plus de mobilité. Regardez la mobilité dans la pyramide anglaise. Ce qui fait
jamais un quatrième de Ligue 2 n'est monté, en revanche. Hein.
Jamais. Ce qui fait le sel d'un championnat et de l'attractivité d'une ligue, c'est sa perméabilité, c'est sa mobilité. Et très franchement, de toute façon, ceux qui se sont sauvés, on cloisonne avec les droits télé, on cloisonne avec CVC, et maintenant on cloisonne avec le format des compétitions. Et regardez qui s'était sauvé historiquement par les playoffs. Il y a eu Toulouse, il y a eu Dijon et il y a eu Nantes. Il y en a deux qui sont de toute façon ont fini par descendre, et un qui a quand même chaud aux fesses quasiment tous les ans. Donc c'est très franchement, est-ce que c'est une méritocratie de sauver le 16e ou à l'époque le 18e de Ligue 1? Moi, je me permets d'en douter.
Kevin.
Non mais ça c'est sûr. Après sur la formule, bon, on a inclus des playoffs, ça donne un petit peu quand même de piment sur la fin, sur les deux trois derniers mois de Ligue 2. Après le problème, et c'est qu'aujourd'hui, moi vous savez que je suis très bien la pyramide du football français. Regardez les clubs qui sont aujourd'hui en national, c'est des clubs de Ligue 2.
Ah mais l'année prochaine, le national, c'est quelque chose.
Pour certains, c'est des clubs de Ligue 1, anciennement. Tu vois, comme l'AS Nancy-Lorraine, par exemple. Donc aujourd'hui, de toute façon, ils ont beau essayer de cloisonner comme ils veulent. Des clubs qui travaillent bien, ils arriveront toujours à monter. Et les clubs qui travaillent mal, ils arriveront toujours à descendre.
On fait tout pour qu'ils ne montent pas.
C'est ça. Ouais, mais peu importe. Parce que aujourd'hui, quand tu as, et je parle surtout des clubs qui vont descendre, quand les gars travaillent mal, ils vont toujours finir par descendre. Tu vois, et tu verras que Nantes, si ça continue de travailler comme ça, il y a une fois, ils vont finir par y passer aussi.
Ce que dit David, c'est simple, c'est que Metz attend depuis maintenant quasiment 10 jours d'avoir son adversaire au chaud tranquillement, tu vois, au coin du feu.
Pendant que les autres, ils auront joué.
Malheureusement pour Metz, c'est Saint-Etienne. Tu vois, ça aurait pu être l'éventuel quatrième de Ligue 2 ou le troisième, le Paris FC.
Non, mais de toute façon, moi,
le quatrième ou cinquième, pardon.
Et on en parlait tout à l'heure pour les droits de télé très rapidement, mais à partir du moment où on fait tout pour favoriser l'élite, c'est-à-dire la Ligue 1, mais que de toute façon les clubs de Ligue 1, ils finiront tous, ceux qui travaillent mal comme Bordeaux, Saint-Etienne, par descendre en Ligue 2. Et c'est quand ils seront en Ligue 2 qu'ils vont se rendre compte.
Mais l'argument premier, c'est qu'il faut favoriser les investisseurs, il faut donner de la sécurité aux investisseurs, il faut surtout pas qu'il y ait d'accident industriel. Mais attendez, les clubs de Ligue 2, c'est pas besoin d'argent. Saint-Etienne, ils avaient pas besoin d'argent. Bordeaux, ils n'ont pas besoin d'argent. Donc forcément, si tu cloisonnes la Ligue 1 et que tu diminues la perspective de gain de revenus, les investisseurs vont beaucoup moins investir en Ligue 2.
Après, la notion de mettre des playoffs, c'est bien en soi pour les clubs de Ligue 2 parce que ça permet d'impliquer davantage d'équipes.
Bien sûr.
Du ventre mou. Mais après, oui.
Mais c'est pour quasiment rien en bout.
C'est ça. Ça peut être frustrant.
Fais un playoff pour monter. Regarde, moi, je regardais cet après-midi. Quand j'ai regardé absolument tous les playoffs parce que j'ai un petit problème avec le football anglais. Mais regardez cet après-midi le match sur terrain neutre entre Leeds et Southampton. C'est 85 000 personnes à Wembley. Vous vous rendez compte, un week-end, n'importe quel stade français, où vous avez les playoffs d'accession en Ligue 1, en Ligue 2 et même en National 1. Vous faites ça sur un week-end sur terrain neutre, mais vous déplacez du monde. C'est une date que vous inscrivez dans le calendrier. C'est quand même une date plus attractive que le trophée des champions, qui est en Guinée au Japon.
Ou alors tu fais comme en série B, t'impliques du 3e au 8e, tu fais des sortes de quart de finale, demi-finale, finale avec des vainqueurs. Et en effet, la notion de terrain neutre, ça peut être aussi attractif et ça peut
c'est
être
sûr.
Intéressant.
Que on a mal copié les Anglais.
C'est pas comme si on avait un stade qui sert à rien en plus. C'est pas comme si on avait le stade de France qui où il y a pas de résidents. Donc même si ça ferait un, peut-être un grand stade, mais à partir de
tu peux le faire. Tu peux le faire ailleurs du côté à Sedan où il y a Sedan qui a un club, qui a un stade moderne en fait, qui n'ont plus d'équipe professionnelle.
Sedan qui est monté en régional 2 d'ailleurs. Je salue les amis cette année.
Très très belle.
Racheté par Koulibaly aussi. Club racheté par Koulibaly.
Tout à fait.
Ouais, Calido.
Qui a pris des parts. Ouais, exactement. C'est terminé pour Génération After. Dans un instant, l'After avec Gilbert, Daniel et Stéphane. Tiens, Roland Garros, comment ça se passe? Est-ce que ça va toujours aussi bien pour Coco Moutet, mon cher Eric?
Non, faut reconnaître que Nicolas Jarry a profité d'une petite pause fraîcheur pour retrouver ses esprits. Il mène 3-1.
Magnifique.
Dans le 3e set.
Revers, là. Allez, magnifique. Matché.
Faut reconnaître. Faut reconnaître, bravo à Nicolas Jarry, ça fait sourire Corentin Moutet. Non, non,
c'est bien de lancer, finir ce match. Évidemment, ouais, on va se régaler.
Mais...
C'est la Netflix en fait, hein, c'est ce match-là. Hein.
Absolument.
C'est pas cliffhanger.
Oui, mais le central est plein. Bah, sauf le présidentiel, bien sûr, ils sont en train de manger.
C'est là qu'il faut être.
Le central est plein.
C'est là qu'il faut être. Eric, tu veux nous accompagner ce soir?
Terence Hartmann est tout près de la qualif. Hein, le
Roland Garros.
6-3, 6-4, 4-2.
C'est le beau Roland Garros cette année, mon cher Eric. On aura 5 Français en quart de finale, tu vas voir.
Oui.
Dans un instant, l'after sur Richard Gasquet, c'est la sienne cette année. Oui. Bonne soirée à Roland et Eric. Hein, la suite dans l'after avec Gilbert, Daniel et Stéphane. Merci de rester sur RMC jusqu'à minuit. À très vite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.